بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار بالعلم الظلمات وجعله سبيلا موصلا إلى الجنات ورفع أهل العلم العاملين به درجات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وفي الإيمان comme nous sommes d'hier, nous allons commencer notre série de cours aujourd'hui sur les livres mentionnés dans le programme. Et aujourd'hui, nous allons commencer par Al-Qawaid al-Arba. C'est comme ça que nous nous sommes convenus. Et avant que le prêtre commence à lire, nous allons parler un peu de l'auteur. Et lorsque nous avions eu à parcourir quelques récits tirés du livre Al-Ibana al-Kubra, nous avions déjà expliqué pourquoi est-ce qu'il est important de connaître l'auteur avant d'étudier un livre. Parce que c'est ça la voie de ses prédécesseurs. Il est important que l'on sache de qui il prend. Parce que notre religion est une religion qui a une chaîne de transmission authentique. La religion de l'islam est une religion qui a une chaîne de transmission authentique. C'est pour ça qu'il est important de savoir celui de qui on prend. Et c'est pour ça que Imam Ibn Sirin, comme l'a rapporté Imam Muslim rahimahullah dans l'introduction de Sahih Muslim, il a dit "Kana an-nas la yas'aluna 'an al-isnad." À l'époque, les gens ne posaient pas des questions sur la chaîne de transmission. Parce qu'à l'époque, les gens ne mentaient pas. Ils parlent de quelle époque? C'est l'époque où tout était organisé. Où les choses suivaient leur cours. Où les gens savaient que les compagnons, les savants, ce sont les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Où on ne prenait que des compagnons du prophète et des ceux qui sont connus pour avoir étudié des compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucun problème. Tout suivait l'ordre. فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ. Lorsque la communauté a connu le trouble, lorsque les gens sont entrés dans l'islam et ont voulu joindre la philosophie à l'islam, lorsqu'ils ont voulu adapter la philosophie à l'islam, parce que les gens sont entrés dans l'islam avec des anciennes idéologies et il y en a qui ne voulaient pas abandonner ces anciennes idéologies. Mais ils étaient convaincus que l'islam c'est la voie authentique, c'est la voie de la vérité. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu joindre les deux. Ils ne voulaient pas abandonner les conceptions philosophiques qu'ils avaient et en même temps ils voulaient suivre l'islam. Ils ont voulu joindre les deux. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de troubles. Alors quand il y a eu ces troubles-là, après la mort de Othman radiallahu anhu. Parce qu'il faut comprendre les troubles. Tout ça, ça a eu lieu presque au même moment. Parce qu'à l'époque de Abu Bakr, à l'époque de Omar, il y a eu beaucoup de futuhat. Il y a eu beaucoup de conquêtes. Et beaucoup de pays sont devenus des pays musulmans. Donc ces personnes qui avaient embrassé l'islam avec leurs idéologies, et comme ils n'étaient pas éduqués par le prophète Mohammed sallam comme les compagnons du prophète, comme les tabi'in qui avaient été formés par les compagnons du prophète, ils ont voulu joindre entre ces idéologies-là et l'islam. Et en même temps, il y a eu la fitna qu'il y a eu, et le prince des croyants, Othman radiallahu anhu, a été assassiné. Ce qui a aggravé la situation. Alors, pour résoudre ce problème, les pieux prédécesseurs se sont référés au texte du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. et ils se sont rendus compte que l'islam, c'est la religion de la chaîne des transmissions. Ils ont fait ce qu'on appelle al-istimbat. C'est-à-dire qu'en étudiant les textes du Coran et de la Sunna, ils ont dit que l'islam est une religion de chaîne des transmissions. Comment est-ce qu'ils ont compris? Ils ont dit que, ils ont compris que si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se serait réveillé plein de révélations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait cela. Il a choisi un enseignant parmi les anges qui a enseigné, qui a transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il recevait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc compris que pour qu'une chose soit religion et authentique, il faut que la chaîne de transmission respecte cette démarche. Il faut que ça aille jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que ce soit d'après celui de qui tu vas prendre, d'après lui, ainsi de suite jusqu'au prophète, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on se sente à l'abri de l'égarement. Voilà pourquoi ils ont dit inna hadha al-ilma dinun. Cette science, tout ce que vous écoutez dans WhatsApp, tout ce que vous lisez de relatif à la religion, c'est ça votre religion. Ce avec quoi les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'ils ont entendu ici, de là, de celui-ci et d'un tel. Donc c'est ça votre religion. C'est quoi donc la solution? Si c'est ça votre religion, faites donc attention. Regardez ce qui vous prenez votre religion. Il faut que ce soit la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a, de qui Allah subhanahu wa ta'ala vous a recommandé de prendre. Allah ta'ala fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux hommes de science quand vous ne savez pas. Donc nous devons de poser la question, de nous rassurer que celui de qui nous apprenons est quelqu'un de science, quelqu'un connu de ce domaine. Voilà pourquoi ils ont dit inna hadha al-ilma dinun. Voilà comment les pieux prédécesseurs ont fait de cette parole une règle générale. Chaque fois que quelqu'un devait se prononcer en religion, il fallait qu'il soit fait une personne reconnue dans ce domaine. Voilà pourquoi Imam Malik dit, je n'ai pas commencé à enseigner jusqu'à ce que 70 savants me recommandent d'enseigner. Mais dis que tu peux déjà enseigner. Et voilà pourquoi lorsqu'on a interrogé Cheikh Souleymane al-Ruhaili, et c'est une parole que les gens qui s'agitent ne peuvent pas avoir le courage de traduire. Cette parole-là, ils n'auront jamais le courage de la traduire. On a interrogé Cheikh Souleymane al-Ruhaili, hafizahullah, quand est-ce qu'il est permis à un étudiant d'enseigner? Parce que ce qu'il va enseigner, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'il lui est permis d'enseigner? Il a dit, quand l'un des deux choses est réuni, alors l'une des deux choses est réunie, qu'il soit recommandé par au moins l'un de ses enseignants qu'il a tenu et qui maîtrise son niveau et qui témoigne qu'il est déjà apte à transmettre. Ça, c'est la première. Donc chaque fois que quelqu'un se passe devant vous, c'est votre droit de lui demander. Qui est-ce qui te recommande? De qui est-ce que tu as étudié et qui est-ce qui te recommande parmi tes enseignants? C'est ton droit. Mais même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'avez-vous pas vu dans les hadiths avec les bédouins? Allahu amaraka bidhalik. Si on demande s'il était permis de poser cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de nous autres? Un bédouin dit, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a réellement ordonné de dire ça? Et le prophète ne se fâchait pas, il disait lui. Il disait, donc tu doutes de moi, comment on fait souvent? C'est la religion d'Allah. Mais ces bédouins, ils avaient une âme incorrompue. Parce qu'ils savaient que malgré tout, on ne peut pas avoir le courage de mentir au sujet d'Allah. C'est ça la différence avec ces anciens et nous. Il savait, c'est pour ça. Il ne connaît pas le prophète Mohammed, même sans connaître sa moralité, mais il savait qu'il était impossible que quelqu'un mente au sujet d'Allah. C'est pour ça que, même quand on lui a posé la question, alors qu'il n'adorait pas Allah, hein, mais quand on lui a posé la question, il disait la vérité. Et si tu lui demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Donc à l'époque, il n'avait pas le courage de manger au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que les gens font aujourd'hui. Donc c'est du droit du croyant de poser la question à celui qui se tient devant lui pour parler de la religion d'Allah. Qui est-ce qui t'a recommandé? Où est-ce que tu as étudié? Donc, le Seigneur a dit que c'est ça la première condition. Il a dit, au moins un savant parmi ceux qui l'ont tenu. Il faut qu'au moins un savant parmi ceux qui l'ont tenu le recommande. Sinon, à la base, il faut plusieurs. Deuxièmement, s'il n'y a aucun savant qui le recommande, qu'il ait au moins un diplôme d'un institut reconnu qui atteste qu'il a fait des études dans cet institut. Il faut que l'institut soit aussi connu et soit un institut crédible et fiable. Si aucun de ces deux conditions ne sont réunies, alors arrêtons de faire la complaisance que nous avons fait et qui a amené la communauté où elle a amené la communauté aujourd'hui. Parce que les gens qui n'ont jamais humé le Dieu de la science, parce qu'ils sont éloquents, on les a poussés devant. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le plus éloquent. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayani la sihara. Hein? En réalité, certains éloquents relèvent de la magie. Certains éloquents relèvent de la magie. C'est pour ça que, quelle que soit l'éloquence d'une personne, il faut que cette personne ait un parcours qui lui donne l'aptitude de s'exprimer en islam. Combien de fois est-ce que les gens se sont égarés à travers leur éloquence? Parce qu'ils ont ressenti qu'ils étaient éloquents, ils ont pris leur place qui n'était pas la leur. Mais il faut qu'on arrête cette complaisance parce que c'est cette complaisance. Je ne parle pas seulement de la communauté musulmane de tout le monde, mais c'est un problème qui touche la communauté musulmane en général. Et ça me rappelle, Muhammad racontait une histoire ici hier, quand on a vu un vieux qui a l'âge de nos parents étudier, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il étudie alors qu'il a cet âge et tout? Il vient s'asseoir devant quelqu'un qui est même plus jeune que lui pour étudier. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de complaisance. Pour parler, il faut être un savant. En Arabie Saoudite, pour s'exprimer, il faut être un savant. Tu ne veux pas t'élever, prendre le micro parce que tu es éloquent. Il faut que tu aies un parcours qui te donne l'attitude de t'exprimer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de désordre. Et regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les compagnons. Quand il a voulu, qu'il voulait envoyer des compagnons, qu'il envoyait n'importe qui. Il envoyait ceux qu'il avait formés, ceux qu'il connaissait. Savoir former, il a testé de leur niveau. Il savait qu'il pouvait comprendre ce qu'il dit. Regardez les hadiths, les recommandations faites par Allah subhanahu wa ta'ala à Mu'ad, radiallahu anhu, lorsqu'il est allé à Yémen. Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Allez lire le développement de ce hadith dans les livres des savants. Or, Mu'ad n'a pas eu besoin que le prophète lui explique tout ça parce qu'il avait déjà ses niveaux. Donc c'est pour dire que ceux qui s'expriment, ceux qui se doivent s'exprimer en islam, ce sont ceux qui ont étudié l'islam. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître l'auteur d'un livre lorsqu'on veut étudier un livre. Parce qu'on doit, être suivi de la chaîne de transmission. Parce que quand on prend un auteur, on lit ses pensées, on lit ses déductions, des textes. Mais il faut qu'on se rassure que c'est quelqu'un qui a les bonnes bases, qui canalise sa compréhension par la compréhension des pieux. Des pieux prédécesseurs. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est l'auteur des Qawaid al-Arba, c'est un porteur flambeau parmi les porteurs flambeaux de la Sunna. Un mujaddid, un réformateur parmi les réformateurs de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que beaucoup de grands savants contemporains ont écrit des livres sur le Cheikh, et parmi les livres qui ont été écrits sur ce livre, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah, qui lui-même est un autre porteur, flambeau de la Sunna. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il est connu de tous. Et le titre de livre dit Min Alami Al-Mujaddidi, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Wal-Imam ibn Taymiyyah, Wal-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Rahimahullah. Il dit parmi les têtes, parmi les réformateurs de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce livre, il parlait de ces trois réformateurs qu'il a cités. Mais ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est qu'il a cité que trois grands réformateurs.
pour comprendre la présence du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, parce que quand on parle d'Imam Ahmad, et après on cite un autre savant, ça veut tout dire de ce savant. Vous savez qui est Imam Ahmad? Imam Ahl-Sunnah. Lorsque le dogme pur lui a fallu s'éteindre, c'est par lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maintenu ce dogme pur. Quand d'autres personnes avaient lâché, quand d'autres savants parmi les imams avaient trouvé des excuses, avaient fait Imam Ahmad a gardé la tête haute et a accepté de mourir pour que la aqida sahiha, le dogme pur, soit préservé. Quand les khalifas, on parle de khulafa, ce n'est pas les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Le khalifa, c'est celui qui était à la tête des musulmans du monde entier. Quand le khalifa avait décidé de changer le dogme à cause de l'influence de ceux qui l'entouraient parmi les mauvais savants, il voulait que les gens croient que le Coran est une création et non la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé et qu'il n'a ni parlé à Moussa ni à qui que ce soit. Alors que rien que cette conception soit quelqu'un de l'islam. Donc, si on avait suivi cette conception, on aurait pu être tous des non-croyants, des mécréants. Mais Imam Ahmad, il a gardé la tête haute. Et il a accepté de prendre sur lui toute la pression qu'il avait. Et chaque fois qu'on le menaçait et qu'on le faisait venir devant un imam et on lui posait la question, il répondait au Coran et Kalamullah. Ghayru makhluqin. Nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, man qala al-Qur'an, man qala al-Qur'an makhluqun fa huwa kafir. Alors qu'il savait que ça pouvait lui coûter la mort. C'est pour ça qu'il y avait des imams plus assez anciens que Imam Ahmed. Mais à cause de sa résistance et de sa fermeté, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Et c'est lui à l'époque que les gens voyaient comme savant, qui entourait le khalifa et qui avait fait cette influence, qui était à l'origine et à de cette idéologie, vous ne le connaissez même pas. Vous voyez comment Allah élève les gens. Alors qu'à l'époque, c'était eux qui étaient connus et ils étaient autour d'eux, mais qui aujourd'hui prient pour eux. Quand on ne prie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, c'est déjà bien. Parce que certaines personnes, quand elles se rappellent d'eux, ils prient qu'Allah les maudit. Alors que Imam Ahmad, rahimahullah, je suis sûr que dans le monde, il ne peut pas passer une seule journée quand on ne prononce le nom d'Imam Ahmad, rahimahullah. Quand on ne prie pas des prières. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ce grand imam. Donc quand on parle d'Imam Ahmad, il parle de quelqu'un avec lui, comme le cheikh il a fait. Il a choisi trois personnes. Quand il commence par Imam Ahmad et le fait suivre par Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ça veut tout dire. Et rien que son laqab, Cheikh l'Islam. Parce que quand on dit, dans le domaine de la science, que Cheikh l'Islam semble préciser, c'est Ibn Taymiyyah. Donc ça veut dire que c'est le cheikh de Cheikh l'Islam. Parce que quand on dit Cheikh l'Islam, sans spécifier, ça veut dire qu'il s'agit de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ben, après avoir mentionné Ibn Taymiyyah, Cheikh Ozan a parlé de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et puis ça nous montre la place de ce grand imam. Et à dire clairement que c'est un réformateur parmi les réformateurs de cette communauté. Et je crois qu'il n'est pas inconnu dans le milieu des gens de la Sunna. Parce que si aujourd'hui on nous appelle Al-Wahhabiyya, c'est par rapport à lui. Parce qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et regardez, subhanallah. Tellement ceux qui détestaient Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et qui combattaient sa da'wa se sont aveuglés que pour qualifier ceux qui le suivent, l'ont qualifié de Wahhabi en oubliant qu'Al-Wahhab c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils disent Al-Wahhabi, il y a que nous sommes des partisans de Al-Wahhab, ça veut dire que c'est une bonne chose. Parce que Al-Wahhab c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont voulu. ils ont voulu caricaturiser la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'avait rien ramené de nouveau. Et parmi les livres que nous allons étudier ici, nous avons lu les travaux de l'Arba et autour de Salata, et vous allez voir c'est quoi la méthodologie du chef. Il ne dit rien, soit ramener un verset ou un hadith. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. Les gens veulent suivre leur passion. Et les réformateurs veulent que les gens retournent aux sources. Et c'est ce que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait pour être combattu. Et c'est normal. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été combattu? Non. Il n'a été combattu. C'est même pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de faire descendre sur lui la révélation, l'a préparé moralement. Pour qu'il sache que bientôt il sera chargé d'un lourd fardeau. Qala inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons révéler sur quoi? Des paroles lourdes. Qui est ce Coran? Ça veut dire que celui qui accepte de porter le Coran, de vivre selon le Coran, se doit d'être solide moralement. Même si physiquement il est faible moralement, il doit être fort. Parce que celui qui se cramponne au Coran, en réalité s'est cramponné au fil le plus solide. Quand il tente sa belle ouvrage, Al-Wusra, c'est la branche, ou alors le fil le plus solide. Donc, tous ceux qui suivront les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, c'est que le suivissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit implique, c'est qu'on sera combattu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Am hasibtum an tadkhulul jannah, wa lamma ya'tikum matalul ladhina khalaw min qablikum, mastahumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. » حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut nous comprendre ici que comment pensez-vous que vous allez entrer au paradis, accéder au paradis sans passer par ceux, parfois ceux qui ont accédé au paradis avant vous sont passés. Islamiquement on a dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et regardez, méditez bien sur ce lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait chaque fois lorsqu'il parle des grandes adorations. Même dans les jeunes, Allah dit, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ça veut dire que le jeune qui sera agréé auprès d'Allah, c'est le même jeune qui avait été ceci à ceux d'avant et qui avait été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne nous reste plus qu'à suivre. Même dans les jeunes, il ne nous reste plus qu'à suivre. Donc, on ne peut pas accéder au paradis sans passer par ce par quoi les premiers qui ont accédé au paradis sont passés. Ceux-là ont été combattus à cause de leur attachement à la révélation. Donc, tous ceux qui appelleront les gens, ceux sur quoi ils étaient, seront également combattus. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été farouchement combattu, mais il a été soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que tous ceux qui combattent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala seront soutenus par Allah. Mais n'oubliez pas que ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala sera proportionnel à votre attachement à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on peut être sur la vérité et être éprouvé. Je l'ai toujours appelé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettre en pratique. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sans aucun doute, fait partie des réformateurs de cette communauté et est un porteur flambeau de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses écrits attestent. Ça, c'est ce que nous pouvons dire en résumé de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Maintenant, pour parler du livre en question, le livre que nous allons étudier, Qawaid al-Arba. Lorsque nous avons étudié Al-Ibn al-Kubra, nous avons parlé des choses ou alors des voies et des moyens qui permettent de savoir la valeur d'un livre. Qui peut me rappeler ce qu'on avait dit? Ah, ça fait un problème. Parmi les choses, Nam. Hmm. Non. Mais je veux autre chose. Il y a l'auteur du livre. Parmi les choses qui font la valeur d'un livre, il y a l'auteur du livre. C'est pour ça que le premier livre, c'est quel livre? C'est pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui suit après? Non? Les hadiths, pourquoi? Parce que c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths du prophète Muhammad sallam, quels sont les livres des hadiths qui passent avant? Bukhari et Muslim, pourquoi? À cause de l'auteur, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, à cause des conditions, leur attachement à la sunna, la méthodologie qu'ils avaient empruntée pour recueillir les hadiths. Donc, la place de l'auteur a une influence sur, non, sur l'œuvre, sur la valeur de l'œuvre. Quelqu'un qui est connu pour ne se baser que sur Qala Allah wa Qala Rasul, comme Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand il rédige un livre, les gens de science se déversent dans ce livre. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont trouver que ce qui s'accorde avec le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui montrent la valeur d'une œuvre, c'est le comportement des savants vis-à-vis de cette œuvre. Regardez Qawaid al-Arba. C'est un livre qui a été expliqué par presque tous les savants de la Sunna. Donc, si tu vas citer le livre, l'explication de Qawaid al-Arba, tu dis au lieu du char de Qawaid al-Arba, on ne pourra pas te servir jusqu'à ce que tu précises le char que tu veux. Parce qu'il y a plus d'une centaine. Expliqué par les savants de la Sunna. Ça y est, pourquoi toutes ces explications? Parce que l'imam, ceux qui ont suivi les pas des pieux prédécesseurs, leur science se rapproche de la science des pieux prédécesseurs. Ça veut dire qu'ils sont pleins de science. Et c'était quoi la méthodologie des pieux prédécesseurs? C'était la méthodologie du prophète parce que c'est le prophète qui les a éduqués. Or, la méthodologie du prophète, comme il l'a dit, « Oti yajawa mi'al kalim » Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des courtes phrases qui renfermaient beaucoup de science. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait peu. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer ce que le prophète a dit, ont dû développer. Mais même eux, comme ils avaient été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans leur explication, ils étaient concis. Et pour expliquer ce qu'ils ont expliqué, les savants qui avaient été éduqués par eux avaient besoin de développer les choses assez. Parce que si le temps passe, plus la science s'affaiblit. Le niveau de compréhension baisse. On a besoin de développer. Ça y est. Et comme c'était des gens pleins de science, lorsqu'ils disaient des courtes phrases, ces courtes phrases renfermaient beaucoup de connaissances. C'est pour ça que chaque fois qu'un savant dit Kawaii de l'Arba, il se rend compte qu'il a compris des choses qu'il n'a pas retrouvées dans les explications qu'il a lues. Et c'est ainsi qu'il se décide de rajouter ces choses. Et c'est comme ça que les choses seront toujours rajoutées. Parce que c'était des gens pleins de science qui s'exprimaient un peu des mots. Regardez Kitab Tawhid et regardez leur méthodologie. Qui mémorise le début de Kitab Tawhid? C'est quoi le début de Kitab Tawhid? Bismillahir Rahmanir Rahim, Kitab Tawhid. C'est quoi? Non? Qawlullah Ta'ala. Vous voyez comment il commence? C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup à dire. Mais ce qu'ils disaient était plein de science, si bien que parfois ils ne se référaient qu'aux références et c'était vrai. Et c'est pour ça que c'est les savants qui expliquent les livres des savants et c'est ceux qui ont étudié qui expliquent les livres des savants. Quand il a dit Kitab Tawhid, au cours de l'Allah Ta'ala, si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas comprendre cette méthodologie. Tu ne peux pas comprendre. Kitab Tawhid, au cours de l'Allah Ta'ala. Parce qu'il sait que ceux qui vont lire ce livre, ce sont ceux qui ont étudié et vont comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas appris tout ça, quand ils ouvrent le livre, ils pensent qu'ils l'ont compris alors qu'ils n'ont pas encore commencé à comprendre. C'est pour ça que l'ilmu bi talaqqi. Al-ilmu bi talaqqi. pour étudier, il faut s'asseoir auprès des ceux qui ont étudié, il faut s'asseoir auprès des savants et prendre. C'est comme ça qu'on étudie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Okay. Maintenant, Mohamed, d'accord.
الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله بن سعد القوانين الأربعة ومعكم من هذا الأشر وإن تعلم في الدنيا والآخرة ويجعلكم الله وأن يجعلكم إلى أنك أينما كنت وأن يجعلكم من كل شهر ويجعلكم كل شهر ويجعلكم من كل شهر ويجعلكم من كل
شهر. طيب الشيخ دي بسم الله الرحمن الرحيم علم نعم نعم أسأل الله الكريم نعم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة الدفاج أسأل الله الكريم رب العرش العظيم جيمتلو الله سبحانه وتعالى لي Seigneur du trône, non? Immense. Seigneur du trône immense. Rabbul Asim Arim. Ayatawallaka fi dunya wal akhira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toi si t'es ainsi que dans l'au-delà. Hein? Amouwalaka, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de toi si t'es ainsi que dans l'au-delà. Et tes débuts témoigne de la miséricorde qu'avait ce chef pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est une marque de civisme. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé comme un miséricorde pour l'humanité tout entier. Ça veut dire que celui qui suit le prophète comme il se doit d'être une miséricorde pour l'humanité tout entier. C'est pour ça que le chef commence par cette parole qui exprime clairement la miséricorde qu'il a envers la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à prier pour nous autres qui allons lire ses livres, qui allons profiter de ses enseignements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de nous ici sur terre ainsi que dans l'au-delà. Parce que c'est lui dont Allah subhanahu wa ta'ala en prend soin, il ne peut être égaré. Il l'oriente vers le droit chemin ici-bas ainsi que dans l'au-delà. As-salallahu al-karim, rabb al-arsh al-azim, ayatawallaka fi dunya wal-akhirah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de toi le jour de la résurrection. Wa yaj'alaka mubarakan inna ma kunta. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse où que tu sois. Que veut dire cette introduction? C'est pour qu'on comprenne que tout ce qui suit, là, pourra nous permettre de concrétiser cette invocation. Là, c'est pour dire que quelqu'un prie pour toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse où que ce soit. En réalité, il ne peut t'orienter que vers ce qui pourra te permettre d'être béni. Donc ça veut dire que, à travers cette introduction, Cheikh Mohammed ibn Abdullah a voulu qu'on comprenne que s'il prie pour nous, qu'Allah prenne soin de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Ça veut dire que ce vers quoi il va nous orienter, c'est la voie qui, inshallah, en empruntera, nous serons béni et Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin de nous. Sinon, on ne peut pas concevoir que le chef fasse une invocation et nous orienter vers un chemin qui va à l'encontre de cette invocation. Asallallahu al-Karim, Rabbal Arshil Azim, ayatawallaka fi dunya wal akhirah, wa yaj'alaka mubarakan ayna ma kunta. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse où que tu sois. Où que tu sois, dans ton commerce, dans ton adoration, dans ton mariage, dans l'élévation de tes enfants, tout. Où que tu sois. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara. Wa idha ibtuliya sabara. Wa idha aznaba istaghfara. Et j'ai prié qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde quelque chose, qu'ils se montrent reconnaissants. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble par un bien, il se montre reconnaissant. Oui, ils absolu ya sabara. Ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, sa patience se montre endurant. وَإِذَا أَذْنَبَ الْفَرْفَرَ Ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché, une turpitude, se repentent. Se repentent. Il dit, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَ عُنْوَانِ السَّعَادَةِ Allahu Akbar. Regardez, les savants et leurs miséricordes. Pour que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il t'a donné ce conseil. Il dit que, certes, ces trois-là sont la base du bonheur. Unwanu sa'ada. Ce sont des choses qui orientent vers le bonheur. Si tu te comportes de cette façon, alors sache que le bonheur est un acquis pour toi. Faïd, c'est quoi la preuve? Qala shir, iza utiya shakara. J'ai pris qu'Allah subhanahu wa ta'ala se fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un bien, peut se montre reconnaissant. Parce que le fait de se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à la base est une obligation. C'est une recommandation divine obligatoire. Nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, en réalité, il n'existe que deux catégories de personnes. Ceux qui sont ingrats et ceux qui sont reconnaissants. C'est pour ça que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'origine de l'homme, dans le verset que nous avons rappelé hier, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما il n'y a pas une troisième situation. Il n'existe que deux situations. Et par conséquent, il n'existe que deux catégories de personnes. Les reconnaissants et les ingrats. Les reconnaissants, c'est ceux qui utilisent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé pour ce pourquoi Allah leur a accordé cela. Les reconnaissants, c'est ceux qui utilisent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé pour ce pourquoi Allah leur a accordé. Et les ingrats, c'est ceux qui utilisent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé pour autre chose que ce qu'Allah leur a accordé. C'est comme ça. C'est pour ça que il faut se poser les vraies questions. Nous qui sommes en forme là, nous qui vivons d'une bonne santé, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette forme? Cette bonne santé. Nous qui avons des moyens, pour ceux qui ont des moyens, pourquoi est-ce qu'Allah nous a accordé cette c'est moyen. قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Recherche à travers ce qu'Allah t'a accordé, la dernière. Donc, c'est pourquoi il t'a accordé ce qu'il t'a accordé, c'est pour que tu recherches la dernière demeure. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Mais l'origine là-bas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ce qu'il t'a accordé pour que tu puisses l'adorer. Ça veut dire que à la base, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créé que pour un but qu'il a lui-même précisé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais puisque Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il a créé mieux que ce soit, il a créé autour de nous ce dont nous avons besoin. Ça veut dire qu'il a créé ce dont nous avons besoin pour quoi? Pour nous. Afin qu'on puisse l'adorer. Puisqu'il nous a créé pour l'adorer, il a créé ces choses pour nous. وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Il a créé pour vous tout ce qui existe sur terre. Il vous a créé pour l'adoration. Alors, il fallait dire qu'en réalité, il a créé ces choses-là pour que ces choses vous permettent de vivre pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. Donc, le reconnaissant, c'est celui qui utilise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ces choses-là. Et c'est pour ça que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné lui, la vue, les membres, c'est pour qu'on l'adore, comme il se doit. C'est pour ça qu'il dit, Imalu ala Daouda Shukra, œuvrez la famille de Daoud en guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance. Donc, pour se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce qui nous a accordé comme bonne santé et moyens, nous devons désirer avec cela sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faïd, c'est quoi la preuve que ça mène au bonheur? La preuve que ça mène au bonheur, c'est qu'en réalité, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait, lorsque nous nous montrons reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça a comme effet? Non?
ça s'augmente. قال الله تعالى وإذ أذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. Et rappelle-toi, lorsque tu enseignais des critères, si vous vous montrez reconnaissant, je vous augmenterai à un bienfait. Donc, pour préserver un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, que devons-nous faire? Nous devons nous montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce que les savants ont toujours dit. Si vous voulez que votre pays change, vous voulez changer la situation d'une communauté, d'un groupe de personnes, non, ne vous en prenez pas aux dirigeants. Ne vous en prenez pas aux dirigeants. Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Commencez déjà par vous réformer. Parce que si vous étiez dans le bien avant, non, ça veut dire que si avant vous étiez dans le bien et que ce bien a changé, c'est que vous n'avez, c'est parce que vous n'avez pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous aviez été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il devait vous augmenter en bienfait. Donc si vous n'avez pas connu cette augmentation en bienfait, ça veut dire que vous n'avez pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ça c'est si le dirigeant était bien. Mais si le dirigeant n'était pas bien, ça veut dire que si nous avons eu ce dirigeant, c'est parce que nous le méritons. Et c'était une épreuve pour nous, pour que nous sortions de l'insoutien en nous réformant. Donc pour sortir de cette situation, il faut se réformer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas un bien qu'il a accordé à un groupe de personnes jusqu'à ce que ce bien change ce dans quoi ils étaient avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur accorde le bienfait. Donc c'est quand on change qu'Allah subhanahu wa ta'ala renverse la situation. Nous vivions au Cameroun. Il n'y avait pas de guerre. Le Cameroun était connu comme un pays de paix. Qui sont ceux qui se montraient reconnaissants envers Allah? Qui ont prié comme ça là et qui ont dit Alhamdulillah? Qui ont fait des gestes en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette paix qu'il nous a accordée alors qu'on voyait des pays en guerre autour de nous? Qui sont ceux qui se sont montrés reconnaissants? Même parmi nous, ne parlons pas des autres, nous qui sommes ici. Qui sont ceux qui reconnaissaient ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui priaient qu'Allah préserve ces bienfaits? ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Nous avons utilisé cet effet pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour outrepasser les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc arrêtons de nous attaquer aux faux problèmes. Le vrai diagnostic c'est ça. Qui sont ceux qui se sont montrés reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il nous oriente vers ce qui nous permettra d'accéder au bonheur. Qala yaj'alaka mimman idha utiya shakara. Qu'Allah fasse que vous soyez du nombre de ceux qui, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un bien fait, se montre reconnaissant. Vous ne voyez pas que nous avions besoin de ces rappels. Qui sont ceux qui ont été reconnaissants vis-à-vis de ce grand bien fait d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi nous? Et la reconnaissance, pour qu'elle soit reconnaissante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit reposer sur trois piliers. Le premier pilier, c'est reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître que ce bienfait émane d'Allah subhanahu wa ta'ala et non de ses efforts personnels. Parce que c'est clair, non? Et il y a parmi nous des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé certains bienfaits. Mais c'est parce qu'ils sont plus intelligents que tous les autres. Non? C'est parce qu'ils sont plus intelligents que tous les autres. Il y en a qui sont plus intelligents. Prenons l'exemple de ce centre. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui sont plus intelligents que Youssouf Ramadan, qui ont même recherché et qui ont même déployé des efforts? Donc ça veut dire que ce n'est pas le fruit de l'effort de Youssouf Ramadan. C'est la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que nous devons l'apercevoir. Il faut être reconnaissant, reconnaître les bienfaits d'Allah intérieurement. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Il ne vous atteint aucun bienfait sans que ce bienfait ne provienne d'Allah. Il faut reconnaître cela. La bonne santé que nous avons aujourd'hui, ceux qui sont malades, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes.
cette bonne santé qui est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala provient d'Allah et nous devons les reconnaître cela intérieurement. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est œuvrer en guise avec le bienfait dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nous devons utiliser pour le cas de la santé, par exemple, cette santé. Non, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala agrée sur les voies qui permettent d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vue n'est-elle pas un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Taï, regardez comment nous nous comportons. Surtout avec les téléphones portables, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, il fallait beaucoup de choses pour faire le mal. Il fallait beaucoup de gymnastique. Mais aujourd'hui, c'est facile. Il suffit juste de se tourner dans une chambre et ouvrir le téléphone. On peut voir tout ce qu'on veut. Et parfois, ce qui fait mal, c'est que si on entend un bruit, si quelqu'un prend la porte, qu'est-ce qui se passe? On éteint le téléphone et on est pris de là, de peur. Parce qu'on ne veut pas que la personne voit. Alors qu'on était sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans accorder aucune importance au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala porté sur nous. Cheikh Abdurazak dit que le geste d'une personne qui se comporte de cette façon, il dit que la peur qu'il a eue quand il a vu une créature dépasse encore l'acte qu'il a commis. Parce qu'il a cette peur, c'est une peur qu'il devait vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas voué à Allah, il a voué à une créature. Ça peut même tomber dans le shirk. Vous voyez? Donc, nous devons être reconnaissants. Et être reconnaissant, c'est préserver le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala des péchés et l'utiliser dans la soumission. Et en parlant de la vue, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être après le ramadan de revenir sur une maqal. C'est une maqal. Il l'a écrit deux fois, le Cheikh Abdel Moussel Abbas. Cette année, il a écrit deux. Yani, le maqal, c'est comme, je ne sais pas comment vous appelez, on appelle ça en français. C'est comme des journaux que le chef publie souvent dans son site. Des articles, voilà. Non, des articles. Il a publié deux articles sur le même thème avec le même titre. Il a dit, prenez garde de vos yeux. Préservez vos yeux de la perte de la clairvoyance et de la vue. Quand il parle de la clairvoyance, c'est la perte de la foi. Parce que le fait de poser les yeux sur des images, sur des choses illicites, peut entraîner la mort du cœur et entraîner la perte de la clairvoyance. Et il est connu qu'en même temps, regarder trop dans ces appareils nuise à la vue. Nuise à la vue. Donc c'est pour ça qu'il a rédigé cet article. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir sur l'article. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est de comprendre que le deuxième pilier de la reconnaissance, c'est utiliser le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est œuvrer avec eux. C'est bien fait comme Allah a dit, Imalu ala Daouda, Shukra, œuvrer en guise de reconnaissance, c'est-à-dire avec le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yunfiqutu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alayhi rizquhu, falyunfiq mimma atahu Allah. Que c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé l'opulence, qu'il dépense en fonction de son opulence. Et donc que c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a restreint les biens, qu'il dépense en fonction de sa restriction. Ça veut dire que même celui qui est pauvre n'a pas une excuse, il doit œuvrer avec le peu qu'il a. Parce que le même paradis que le riche recherche, c'est le même paradis que le pauvre recherche. Mais seulement, chacun le recherche en fonction de ses moyens. C'est pour ça qu'on peut avoir peu de moyens et avoir plus de récompenses. Parce que le peu qu'on a dépensé est proportionnel à ce qu'on a. Quelqu'un peut dépenser plus alors que cela n'est pas proportionnel à ce qu'il détient. Donc il faut, c'est ça la reconnaissance. C'est rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et le troisième pilier, c'est quoi? At-tahadduth bin ni'amillahi.
c'est parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Quant aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, proclame-les. Mais il faut savoir ce que c'est que proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est dit Alhamdulillah? Les frères, j'ai 37 ans, mashallah, Alhamdulillah, c'est les bienfaits d'Allah. Non, c'est pas ça. Proclamer, parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on se rappelle de ses bienfaits. Quand tu vois quelqu'un passer, démuni, et qui te rappelle des bienfaits qu'Allah t'a accordé, dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, il l'a dit à Fani, même après la vie, Kafiran, mais Ibadi. C'est ça, proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en se rappelant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala quand c'est nécessaire, à condition que l'ostentation n'entre pas dedans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il parlait des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait, Ana sayyidu wa ladi adam wa la fakha. Méditez bien sûr la parole de Dieu. Il dit, je suis le maître des fils d'Adam, voilà Fahar. Et j'ai précisé qu'il n'y a pas de vantage là, dedans. Parce qu'il avait, il avait besoin qu'il exprime cette réalité. Qu'il fasse ressortir ses bienfaits d'Allah au Subhanahu wa Ta'ala quand c'était nécessaire, mais il précisait que c'était sans vantage. Donc, voilà les trois piliers de la reconnaissance. Voilà. Ouais, il y a quand même Ibtulia sabara. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent, se montrent endurants. Taïb, c'est quoi la preuve que cela mène au bonheur? Le fait d'être patient. Quel est le bonheur absolu? Qui peut me dire le bonheur absolu? C'est quoi le bonheur absolu? Non? C'est accéder au paradis, c'est ça la grande réussite. La réussite absolue, c'est accéder au paradis. Famanzou se fait en l'air et autres, c'est la dernière fakade, fakade phase. Soyez. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport aux endurants, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Bighayri hisab. Et vous connaissez le hadith où le prophète sallam a annoncé que 70 000 entreront au paradis sans jugement. Allah dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui sont rétribués sans jugement sont les endurants. Parce que le jugement c'est un problème, hein. Même quand tu vas aller au paradis, le simple fait que tu sois soumis au jugement. Vous imaginez le stress dans lequel ou alors dans lequel les gens feront le jour de la résurrection, quand tu sauras que tu fais partie de ceux qui seront soumis au jugement. Parce qu'il y a trois étapes, il y a trois choses. Il y a ceux qui auront au paradis sans jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dira allez au paradis. Hein? C'est moi Allah, vous allez au paradis. Sans commenter, vous allez au paradis. Ça c'est le plafond. Ceux qui auront au paradis sans jugement. Et au cas, ça fait parmi ces derniers. Quand le prophète avait fait cette annonce, Okaïcha a dit au prophète, prie Allah pour que je fasse parmi ces derniers. Il a dit, tu fais partie de ces derniers. Une deuxième personne a demandé, le prophète a dit, si on ouvre cette porte, ça ne va finir, finalement on va mettre tout le monde au paradis sans hisab, alors que les gens doivent ouvrir, les gens doivent faire l'effort. Donc c'est pour ça que le prophète avait fermé cette porte, mais il a fermé car au cas qui était déjà entré. Vous voyez comment la miséricorde d'Allah au subhanahu wa ta'ala et les bienfaits d'Allah se déversent sur certaines de ces créatures, comme elle les déverse sur certaines de ces créatures. Comme ça, au cas qui fait partie de ces derniers, qu'Allah au subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ces derniers. Donc, ce qui nous montre l'importance de là, de l'endurance. Donc, nous avons dit qu'il y a trois étapes. Ceux qui auront au paradis sans jugement. Et ceux qui seront jugés, mais qui, chaque fois qu'ils seront soumis, leur jugement sera ce qu'on appelle al-arb,
C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur parlera de leurs actes. Et ils vont reconnaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mettra au paradis. Mais parmi les croyants, ceux de la communauté du Prophète sallam, comme le prophète dit, nous qui sommes Sita, celui qui devra répondre à tous les détails, il sera châtié. Imaginez-vous, qui est celui qui peut répondre à tous les détails sans faillir? Prenons un seul cas, rien que la vue. Prenons le dossier de la vue, téléphone tous les autres membres. Prenons le dossier de la vue. Qui est celui qui pourra répondre à tout ce qu'il a vu sans faillir? Donc c'est pour ça que c'est lui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala interrogera toute sa vie. Et lui demande de répondre de ses actes, finalement il va faire un tour en enfer. Le prophète dit maintenant que chaque état est au Aïcha, quand il a écouté ce hadith, elle s'est étonnée, il a dit mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu kitaban yasira. Celui-là aura un jugement léger, un calcul léger. Le prophète a dit avec l'arbre. Ça c'est le arbre. Le arbre c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parlera de ce qu'il a fait. Et lui il va reconnaître. Et Allah lui pardonnera. Mais c'est lui qui devra répondre. Pourquoi tu as vu tel? Est-ce pour ça que tu t'avais accordé la vue? Tu ne pourras pas s'en sortir. Parce que tu ne pourras pas donner les réponses justes à toutes les questions qui lui seront posées. Et quand on n'aura pas la bonne réponse, il va falloir faire un tour en enfer pour se purifier. Parce que le paradis, c'est une demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée au bon. C'est pour ça qu'on accédera au paradis, illa man atallaha bi qalbin salim. Même si tu es croyant et tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur corrompu, il va falloir purifier tes cœurs. Et le seul endroit où tes cœurs pourront être, ou alors le seul endroit où tes cœurs pourront être purifiés ce jour, etc., en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et ça nous montre l'importance de l'endurance. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on est confronté aux épreuves, il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on doit endurer. C'est un acte d'adoration. Et regardons plutôt ce qu'on peut gagner en endurant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà aidé. Il nous a expliqué ce que c'est que cette vie dans le Coran. Il nous a prédit des choses qui arriveront coûte que coûte. Nous serons éprouvés. Allah nous a dit. Les gens pensent qu'ils vont dire que nous croyons sans être éprouvés. Nous serons éprouvés. Mais quelle est l'attitude à adopter lorsqu'on est éprouvé? قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. Certes, nous vous éprouverons par des choses comme, par des manquements liés aux membres, aux moyens, aux biens, aux fruits, à la nourriture. Il y aura la faim, il y aura toutes ces épreuves-là. Existeront. Et chacun connaîtra l'une de ces épreuves dans sa vie. C'est un acquis. On perdra l'un de ses membres, on perdra un membre de la famille, quelqu'un qu'on aime, ça arrivera un jour. Il dira un jour, on va galérer. Il n'y a personne qui peut vivre au même rythme du jour au lendemain. Et on est jusqu'à son dernier jour. Non. Donc il y aura cette épreuve-là. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme conduite à finir lorsque nous connaissons ces épreuves? Écoutez la suite du verset. Allah, après avoir dit ce qui arrivera, il a donné la conduite à finir. Il a dit, « Waba shir sabri » Regardez comment Allah donne la conduite à finir. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Qui sont ces endurants-là? « Alladina ila afabatum musibatum » Ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils sont frappés par une épreuve, ils disent, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Généralement, nous ne disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un que lorsque on perd un membre de la famille, alors que c'est toutes les épreuves. Non? Quand l'enfant commet une bavure et que vous considérez que c'est une épreuve, rappelez-vous, dites Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce que c'est une parole pleine de science. Eh bien, rappelle-nous.
quand tu te dis Inna Lillah, j'appartiens à Allah. C'est lui qui est, c'est lui, yani, avec qui je suis touché par cette épreuve, appartient à, l'épreuve même appartient à, Inna ilayhi rajoun, et nous retournerons tous vers Allah. Regardez comment, regardez l'effet que ça peut faire au cœur. Nous retournerons tous vers Allah, il est le meilleur juge. Pourquoi se précipiter? Pourquoi s'embrouiller? Pourquoi ne pas s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et en direct et bénéficier et de la récompense des endurances et du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un jugement sans faute. Donc c'est ça le sens de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est quoi la récompense de ceux-là? Fa'ula'ika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun. Ceux-là reçoivent les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde d'Allah, et ceux-là sont sur le droit chemin. Parce que celui qui reçoit l'éloge d'Allah, même l'éloge du prophète Mohammed sallam, cela l'entraîne vers la guidée. C'est pour ça que ceux-là sont les guidés. Donc, on ne peut pas sans l'endurance, c'est pour ça que nous devons travailler l'endurance. Nous devons cultiver en nous l'endurance dans l'éducation de nos enfants, dans la relation que nous entretenons avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la relation qui existe entre nous et nos épouses, dans la relation que nous entretenons avec nos semblables. Nous devons cultiver l'endurance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est cherché dans la perdition sans déception. L'homme est dans la perdition, ensuite vient l'exception. Illa alladhina amanu, tous ceux qui ont cru, wa tawasaw bil haqqi, qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité, wa tawasaw bis sabr, et qui s'enjoignent mutuellement dans l'endurance. Il faut l'endurance. Et c'est facile d'écouter le rappel et de secouer la tête. Mais sachez que l'endurance auquel on fait allusion, c'est l'endurance qu'on se doit d'avoir lorsqu'on vient d'être éprouvé. Lorsqu'on vient vous remettre la convocation, c'est là. C'est ce que tu vas dire. C'est là que l'endurance, c'est cette endurance-là qui compte. C'est le comportement que tu vas adopter. Est-ce que tu vas te précipiter? Est-ce que tu vas être calme? Parce que quand tu reçois une provocation, une convocation, quoi que ce soit qui représente une épreuve, et tu te dis, Inna lillah, j'appartiens à Allah. Celui qui me convoque appartient à Allah. La convocation appartient à Allah. Tout ce qui te dira appartient à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et nous retournerons tous vers Allah. Et imaginez l'effet que ça fait au cœur quand on médite sur le sens de cette parole. Quand on le dit avec foi et sincérité. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers Allah que nous y retournerons. Cette personne dormira tranquillement, wallahi abim. Parce qu'il s'est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a peur de rien. Il sait qu'il appartient à Allah. Ce que lui qui le convoque appartient à Allah. Non? Que ce qui le guette appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous retournerons tous vers Allah. Donc c'est là. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى. Certes, l'endurance prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle que l'on se doit d'avoir au premier choc. Parce que l'endurance qui vient après, même quand on voit en prison, tu as chaud au cœur, tu peux agir autrement. Mais quand on te ferme déjà dans ta cellule, où finis tu vas endurer. Mais cette endurance qui n'a aucune récompense, parce que c'est un bien fait d'Allah pour toi. Sans cette endurance, tu te serais peut-être suicidé. Donc cette endurance, c'est un bien fait d'Allah qui ne peut pas te récompenser pour t'avoir accordé ce bien fait. Tu n'as fait aucun effort. Mais l'endurance qui te fait bénéficier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est la résultante de tes propres efforts.
quand ta passion veut que tu agisses et que tu fais dominer ta foi sur ta passion et décide d'adopter l'attitude prescrite par Allah, enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à cette situation et non telle que ta passion, ce qui t'endoue, te dicte. C'est là qu'intervient l'endurance et c'est cette endurance qui est récompensée. Allah sallallahu alayhi wa sallam sallam man iza utiya sabar shakar wa iza tulia sabar. Et l'endurance aussi repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'endurance, ou alors l'endurance est de trois catégories. La première catégorie, c'est endurer pour ce qui est des actes d'adoration. Pour prier aux heures précises, comme Allah l'a prescrit, il faut être endurant. Il faut avoir le courage d'abandonner certains intérêts personnels. Et cela nécessite l'endurance. Donc ça, c'est la première catégorie d'endurance. Et il faut absolument faire soi pour qu'une personne soit qualifiée d'endurance. C'est pour ça qu'on peut croire qu'une personne est endurante, alors qu'en réalité, islamiquement, ce n'est pas une personne endurante, parce qu'il faut absolument les trois catégories pour qu'une personne soit un endurant. Donc, la première catégorie, c'est se montrer endurant dans la mise en pratique des injonctions divines. La deuxième endurance, c'est l'endurance pour ce qui est du fait de s'écarter des péchés. Ne pensez pas que ceux qui ne commettent pas les turpitudes n'ont pas envie de commettre ces turpitudes. C'est parce qu'ils sont endurants. C'est parce qu'ils font dominer leur foi sur leur passion et se laissent guider par leur foi et non par leur passion. Et cela nécessite l'endurance. Donc il faut être endurant. Si on n'est pas endurant, on va faire la riba. Surtout à ce moment. Si on n'est pas endurant, on va faire la riba. Si on n'est pas endurant, on va mentir. Si on n'est pas endurant, on va entretenir la rumeur. Tout ça nécessite l'endurance. Si on n'est pas endurant, on ne va pas éduquer nos enfants comme il se doit. Surtout avec tout ce programme mis sur pied par le diable et ses adeptes pour détourner les hommes. Parce qu'il faut qu'on soit clair. On ne peut échapper au plan mis sur pied par les ennemis de l'islam que si on prend conscience. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a été explicite. Il dit Inna shaytan lakum aduwwun. طيب ماذا فاتخذوه عدوا le diable est pour vous un ennemi, considérez-le comme un ennemi. Père, quand tu es en face d'un ennemi, est-ce que tu peux dormir? Quand tu sais que tu es un ennemi, que tu considères comme un ennemi, est-ce que tu peux dormir? Pourquoi nous dormons alors que nous sommes avec le diable partout où nous sommes? Pourquoi nous dormons alors que nous sommes avec le diable? Quand Allah utilise ces termes, c'est des termes que nous comprenons pour qu'on sache. Il utilise les expressions que nous comprenons. Il dit, Inna shaytan lakum aduwwun, fattakhidhuhu aduwwa. Le diable est pour vous un ennemi. Considérez-le comme un ennemi. Nous connaissons tous que le diable est un ennemi, mais combien sont ceux qui considèrent le diable comme un ennemi? Parce que quand on considère quelqu'un comme un ennemi, on ne peut pas être un soutien vis-à-vis de lui et inattentif. On est toujours sur ses gardes. Et pourquoi face au diable, nous ne nous comportons pas de cette façon? C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que nous avons le résultat que nous avons. Nous nous sommes fait détourner, nous nous sommes fait avoir. Nous avons été détournés de l'objectif. À l'époque, ceux qui avaient été éduqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivaient pour ce pourquoi Allah les a créés. Ils avaient compris le but de la création et ils vivaient pour cela. C'est pour ça. Ça vous étonne, mais ça n'étonne pas quand on comprend. Quand on vous dit que lorsqu'il y avait une bataille, il fallait que les gens contribuent. Il y avait des compagnons qui venaient avec tous leurs tous leurs biens. Ce qu'ils avaient compris. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Ils avaient compris qu'ils vivaient pour ça. Allah les a créés pour l'adoration et c'est une occasion de donner sur le sentier, d'aller donner tout ce qu'ils avaient. On peut faire ça aujourd'hui sans avoir le même résultat. Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils avaient donné tout ce qu'ils avaient? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint un degré d'élévation d'âme. Et les choses se passaient comme il se doit. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mantara caché en l'illahi, awadahullahu khayran minhu, ils avaient compris c'était soudé dans le cœur. Que quiconque délaisse une chose pour Allah, c'est pourquoi tu délaissais ses biens. Tu délaissais de ses juifs, de se mettre à l'aise avec ses biens pour eux. Pour mettre ses biens sur le sentier, pour les dépenser sur le sentier d'Allah. Allah dit que quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah remplace, lui remplace cela par ce qui est meilleur. Donc ils avaient compris et ils vivaient pour ce pourquoi Allah les a créés. Mais aujourd'hui nous nous sommes fait avoir par les diables, le diable et ses adeptes, par les médias. Regardez l'aspiration que nous avons aujourd'hui. Chacun veut avoir une belle maison, une belle voiture, mettre sa famille à l'aise. Parce qu'on n'a pas compris le temps de mettre la famille à l'aise. On n'a pas compris que mettre la famille à l'aise, c'est leur donner une éducation islamique. Parce que si tu laisses cet héritage, si c'est cet héritage que tu laisses à ta famille, tu leur as laissé une richesse. Méditez dans un verset dans Sourate Al-Kahf. Lorsque Moussa alayhi salam a rencontré Khidr, méditez bien sur ce qui s'est passé. La troisième action qu'il a menée, qui a provoqué la réaction de Moussa, ils se sont séparés, c'était quoi? Lorsqu'ils vont entrer dans un village, Fawajada fi hajidara yuridu an yanqadda fa aqama. Il a réagi, Moussa a réagi, il a dit, haza firaqu bayni wa bayna, sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi, sabra. Qu'est-ce qu'il a dit des deux jeunes? Wa amma al-ghulam, wa amma al-ghulamayn. فكاد أبواهما صالحا وكان تحتهما كنز. Écoutez bien, hein? Il dit, quant aux deux enfants dont on a relevé le mur, ils avaient un père qui était pur. Écoutez bien, c'est pas à cause des enfants, c'est parce qu'ils avaient un père qui était Dieu. Et un père pur, c'est celui qui a donné l'éducation islamique à ses les enfants, et regardez comment les enfants bénéficient. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de sa progéniture après sa mort. Il y avait un trésor qu'ils allaient, Allah subhanahu wa ta'ala attendait qu'ils grandissent pour dévoiler ces trésors. Est-ce que c'est parce que son père avait passé tout le temps à amasser ces trésors, à travailler, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il existe ces trésors en dessous de leur maison, et attendait qu'ils grandissent pour faire ressortir ces trésors? Allah a envoyé les gens venir protéger ce trésor quand ça allait apparaître. Il a envoyé Khidr venir construire, élever le mur pour cacher ce trésor. À cause de quoi? Wakana abuhuma saliha. Parce qu'ils avaient un père pur. Donc, nous devons comprendre l'objectif de notre existence. Et donner cette éducation à nos enfants. Yani, l'éducation qui leur permet de rester fixé sur l'objectif. Les médias sont venus avec les chaînes nous détourner de cet objectif. Pour nous, aujourd'hui, le bonheur ce n'est plus accéder au paradis. Alors qu'il est dit dans le Coran que le bonheur c'est accéder au paradis. Le bonheur absolu c'est ça. Mais aujourd'hui, pour nous, le bonheur ce n'est plus ça. C'est de vivre à l'aise sur terre, être bien, avoir les moyens, avoir les grosses voitures. Où est-ce qu'on a eu cette éducation? C'est à travers la télé. Aujourd'hui, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est vieux, parce qu'il est soumis, parce qu'il étudie. Non, on le respecte parce qu'il a une voiture, parce qu'il a une renommée. Où est-ce qu'on a eu tout cela? C'est parce que nous n'avons pas considéré notre ennemi comme ennemi et nous a eu. Et nous ne pouvons être à l'abri que si nous le considérons comme un ennemi et restons sur nos gardes. Enfin, on parlait de l'endurance. Première catégorie, on parlait de la deuxième catégorie qui est le fait de se montrer endurant
vis-à-vis des interdictions. Parce que si on n'est pas endurant, on va tomber dans les interdictions. Et la troisième catégorie de l'endurance, qui est une endurance obligatoire aussi, c'est As-sabr ala akbar Allah al-mu'lima. C'est se montrer endurant vers les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font mal. Vers les décrets d'Allah qui font mal. Parce qu'il y a certains décrets qui font mal. Quand vous avez un fils que vous aimez, qui est votre cœur, comme on dit souvent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le reprenne, ça fait quand même mal. Mais quand on est croyant, on se montre endurant. Lorsqu'on vient annoncer la mort de son enfant, la mort d'un proche qu'on aime, la première chose qu'il vient nous dire, c'est qu'en réalité, moi j'appartiens à Allah. Cet enfant appartenait à Allah. Et nous allons se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais encore rappeler une leçon ici, que je rappelais ce matin aux femmes. L'importance de la maîtrise des expressions enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Allah subhanahu wa ta'ala. La quintessence que renferment ces expressions. Il est étonnant de voir que aujourd'hui, lorsque quelqu'un, les musulmans disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et après remplissent les funérailles. Naam, d'innovation. Ça veut dire que même quand ils ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ils n'ont pas compris pourquoi Allah a légiféré à l'homme de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lorsque quelqu'un meurt. C'est une façon de te rappeler que toi là, tu appartiens à Allah. Ceux qui viendront t'assister au deuil appartiennent à Allah. Celui qui est mort appartient à Allah. Et nous allons tous retourner vers Allah. Ça veut dire que chacun d'entre nous sera réfugié en fonction de ce qu'il aura œuvré. Donc fais attention. Mais les gens ne comprennent pas ce message. Fais attention, fais gaffe. Tu appartiens à Allah. Même celui qui vient d'assister appartient à Allah. Celui qui est mort appartient à Allah. Mais si nous appartenons tous à Allah et que nous allons retourner vers Allah, c'est donc comme Allah au Subhanahu wa Ta'ala a prescrit. C'est ce que tu avais aussi dit. Mais qui sont ceux qui comprennent comme ça? Qui sont ceux qui méditent lorsqu'ils prononcent ces expressions? Vous voyez pourquoi nous devons étudier? Pour comprendre tout ça. Il y a des paroles que nous prononçons chaque jour, qui sont des paroles lourdes, de sens, mais qui ne nous sont pas utiles parce que nous n'avons pas compris la quintessence de ces mots, de ces expressions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse le nom de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Donc, la troisième catégorie, c'est As-sabr ala akhdar Allahi al-mu'lima. C'est se montrer endurant vis-à-vis des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font mal. Ensuite, le terme dit فَإِنَّ هَاُولَا إِسْتَلَاتِ نَا وَإِذَا أَذْنَبَا إِسْتَغْفَرَ. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'ils pêchent, retournent repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Et comment cela mène au bonheur? Parce que, en réalité, et comme ça, je l'ai toujours dit et j'aime le rappeler, la pire des personnes en islam, c'est pas celui qui commet le péché. Parce que, si nous sommes sur terre aujourd'hui, c'est le fruit du péché. Allez, ça t'a dit? Non? Oui. Mais est-ce que celui qui a commis ce péché est la pire des personnes? Au contraire, il fait partie des meilleurs des hommes. Qu'est-ce qui a fait de lui? Qu'est-ce qui lui a fait garder cette posture? C'est la tauba, la repentance. Hey, regardez bien. C'est lui qui est la plus des créatures, c'est qui? C'est Iblis. Non? C'est Iblis. Entre lui et Adam, en matière d'adoration, qui dépassait l'autre? Iblis adorait Allah avant même que Adam ne soit. Ne soit crié. Méditez bien. Iblis a péché. Non? Avant que Adam ne pêche. Adam a péché avant lui. Mais il s'est fait pardonner. Et Adam a péché après lui. Mais il s'est fait pardonner. Iblis a péché. Au lieu de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est monté en gras. Et s'est enflé d'orgueil. Et qu'est-ce que l'orgueil? Le prophète sallam l'a bien défini. Non? C'est le refus de la vérité et le mépris des personnes. C'est ça. Quand tu reconnais que tu as fait du mal et ne te répands pas, c'est refuser la vérité. Parce que c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au péché, c'est la tauba. Donc, quand tu ne te répands pas, tu es un orgueilleux. C'est ça l'orgueilleux islamique, en islam. C'est celui qui ne se répand pas. Donc, la pire des choses en islam, c'est pas commettre le péché. Ce n'est même pas commettre le shirk. Le shirk fait partie des grands péchés et des graves péchés. Et si quelqu'un meurt dans cet état, elle est vouée à, cette personne est vouée à l'enfer. Mais si quelqu'un se répand, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. Ça veut dire que le pire des péchés, en fait, ce n'est pas seulement le shirk, mais c'est de commettre le shirk sans se repentir. Ça veut dire que la pire des choses en islam, c'est le fait de ne pas se repentir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut toujours revenir repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout lorsqu'on se rend compte qu'on a commis le péché. Et puisqu'on n'est pas toujours sûr de se rendre compte qu'on a commis le péché, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'istighfar. Et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne vis-à-vis de ce que nous avons fait sciemment et de ce que nous avons fait inconsciemment. C'est pour ça que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé du shirk, les compagnons étaient épris de peur. Parce qu'ils ont compris, à travers l'explication donnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'assurait que personne ne soit réellement à l'abri du shirk. Mais comment penser qu'on est à l'abri du shirk quand Abul Anbiya, le père de la Hanafiya, Ibrahim alayhi salam, quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant Wajnubni wa baniya anna abud al asnam, et préserve-moi ainsi que ma progéniture de l'adoration des idoles. Ibrahim alayhi salam, voilà ta prière. Qu'en est-il de nous autres? Alors qu'il était un prophète. Donc, c'est pour dire que personne n'est à l'abri. On peut tomber dans le shirk inconsciemment. On peut tomber dans le shirk inconsciemment. Et c'est même l'occasion pour moi. Jusqu'à hier, j'ai médité sur une chose. Ici, où est le frère, le grand frère Moukadani? Nous avons souvent l'habitude de jouer avec quelque chose. Et hier, je réfléchissais par rapport à ça et je me demandais si c'était à sa place. Et après, je me suis rendu compte que c'est une erreur grave. On a souvent l'habitude de faire comme si le grand frère avait certains pouvoirs. En jouant, on le fait en plaisantant. Ça y est. Ceux qui ont mécru et que le verset est défendu et a accepté de leur mécréant, qu'est-ce qu'ils ont donné comme excuse? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. C'est donc quoi la différence entre nous quand nous faisons cette plaisanterie avec les derniers? قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. On ne faisait que plaisanter en disant des paroles futiles. Mais quand on prononce des paroles de mécréance, consciemment, c'est la mécréance, même en joie. Et ça, c'est encore une preuve que nous avons besoin d'être en contact permanent avec le rappel et la science. Même celui qui vous parle est concerné. C'est pour ça que nous devons faire attention et méditer par rapport à tout ça. Maintenant, dites-moi, quelle est la différence entre nous et ces derniers qui ont dit « Innama kunna nakhudu wa nal'ab ». Qu'est-ce qu'on fait souvent? On pense souvent plaisanter, mais est-ce qu'on plaisante avec le kufr? Ce n'est pas à sa place. C'est pour ça que nous avons besoin de nous repentir. Et méditer sur les azkars enseignés par les prophètes, ça nous reconnecte à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces invocations-là, ça nous parle de, ça nous renvoie à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il avait parlé du shirk, les compagnons ont compris que le shirk est tellement caché et a des formes si bien que il peut arriver sur certaines formes sans qu'on ne se rende compte. C'est pour ça qu'ils ont été épris de peur. Même Abu Bakr était dépassé. Il a dit au prophète sallam, comment donc s'en sortir? Le prophète a dit, ne vais pas vous montrer une parole que si vous le dites,
Et très souvent, cette parole chassera le shirk apparent et le shirk caché. Il a dit, قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'attribuer un associé tout en étant conscient et le fait de tomber dans cela inconsciemment. Donc ça fait partie des invocations que nous devons multiplier. Nous devons de nous repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons besoin d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait fermé la porte de la Touba. Si Allah avait créé, nous avait créé tel qu'il nous a créé, envoyé le prophète et le Coran, et avait fermé la porte de la repentance, il serait dans son droit. Parce qu'il nous a mis en garde. Il nous a parlé du diable. Il a envoyé le prophète en salamant sa miséricorde. Il nous a fait savoir ce avec quoi il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a révélé le Coran. Donc, même après ça, on devrait plus avoir d'excuses. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a créé, mieux que qui que ce soit, il connaît notre faiblesse. C'est que malgré tout, et malgré tout les mises en garde, il se peut qu'on tombe dans le péché. C'est pour ça qu'il a ouvert cette porte de miséricorde, qui est la porte de la repentance. Et nous devons de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez l'importance de ces trois choses citées par le Cheikh dans l'invocation. Et ça confirme ce que nous disions. Le Cheikh veut que nous soyons des personnes bénies en suivant cette voie. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Ça, ces trois sont la base. En fait, quand on parle de unwan, c'est quelque chose qui indique. Yani, c'est comme une adresse. Donc c'est comme le fait de dire, ces trois choses sont l'adresse du bonheur. Si on retient sur le bonheur, voilà le chemin du bonheur. Kun mimman idha utiya shakara wa idha tuliya sabara wa idha adnaba istaghfara. Alors soit du nombre de ceux qui l'ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un bienfait et montre reconnaissant. Lorsqu'ils sont éprouvés, se montrent endurants. Et lorsqu'ils commettent un péché, retournent repentants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois que nous sommes arrivés. Page. Donc nous n'allons pas là. On finit cette page. Non? Page. Si le temps, c'est votre temps. On fait comment? Page. Barakallahu fik. Atmi. نعم قال الشيخ اعلم ارشدك الله لطاعته صح الله سبحانه وتعالى تورينت في la soumission. Ici, regardez la miséricorde du chef. Il veut nous enseigner quelque chose, mais même après avoir commencé, il prie encore pour nous. Qu'Allah t'oriente vers le chemin de sa soumission. Ça veut dire que le chef montre le chemin de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala en priant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers ce chemin. Ça veut dire que en réalité, il ne reste plus qu'une chose. Parce qu'il y a des choses, lorsque ces choses sont réunies, on retrouve le droit chemin. Lorsque la volonté y est, et on prie, le Cheikh a déjà prié pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers le droit chemin. Il nous a également montré le droit chemin, parce que ce vers quoi il va nous orienter, c'est le droit chemin à la lignée du Coran et de la Sunna. Ça veut dire que ce qui reste, c'est quoi? C'est la volonté. Et c'est ce qui, le Cheikh ne peut pas nous aider, il ne peut pas nous donner la volonté. C'est nous qui devons avoir la volonté. La prière y est. Le chemin est exposé clairement, et il ne reste plus que la volonté pour suivre. Quand la ilam, sache, arshadak Allah li ta'ati, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente sur le chemin de sa soumission.
أن الحنفية ملة إبراهيم حنيفة. Il faut savoir que ce qu'on appelle Al-Hanafiyya, c'est la voie d'Ibrahim. Non, c'est la voie d'Ibrahim alayhi salam. Parce que c'est cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim de suivre. Et c'est le chemin de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hanafiyya, c'est le fait de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne vouer l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on appelle la voix d'Ibrahim alayhi salam al-Hanafiyya, c'est la voix de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilam anna al-Hanafiyya, ilam arshadak Allah li ta'ati, anna al-Hanafiyya millat Ibrahim hanifa. Maintenant, le chef explique ce que c'est que cette voie d'Ibrahim. Il nous a fait comprendre que Al-Hanafiyya, c'est la voie d'Ibrahim. Pourquoi le chef fait cette précision avant de citer? Pour que tu saches que, est-ce que la voie d'Ibrahim peut être la voie du faux? C'est la voie qu'Allah a ordonnée à tous les prophètes qui sont venus après lui de suivre. Donc, c'est la voie authentique que nous devons tous de suivre. Maintenant, il nous explique ce que c'est que cette voie. قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مَا قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. C'est le fait que tu voues l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui attribuer d'associer. C'est ça Al-Hanafiyya. أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. C'est le fait que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant l'adoration exclusivement sans lui attribuer d'associer. Et quand on parle d'attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'on attribue l'associé, on attribue l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala sous trois formes. On peut attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. On peut attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Et on peut attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est pour ça que nous devons de connaître Allah. De savoir qui est Allah, de maîtriser la seigneurie, de connaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas donner quelque chose qui relève de la seigneurie à un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une peur qui doit être vouée exclusivement à Allah et cette peur relève de l'adoration. Celui qui ne connaît pas cette peur-là peut la vouer à un autre et tomber dans le shirk. Donc, c'est ça Al-Hanafiyya, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant l'adoration exclusivement sans attribuer d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, anta'budallah wahdahu wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha wa bidhalika amara Allahu jami'an nas. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les hommes. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Taï, ma foi d'Alice. Il y a deux choses ici. Wa bidhalika amara Allahu jami'an nas. C'est toi la preuve. Wa khalaqahum laha. Ma foi d'Alice. Non, Muhammad. أغيب الدليل أو هنا الآن أغيب الدليل وبذلك خلق الله وبذلك خلق جميع الناس في بوسكلا كيتو لزوم في كل خير نعم شوف لا اكتب لك شوف الشيخ ديك وبذلك أمر جميع الناس في كل الله أردني أتولي تو لزوم وخلقهم لها vous allez constater que les parents sont précis dans les dans leurs expressions, dans les expressions qu'ils utilisent. Parce qu'ils aiment que leurs expressions s'accordent avec les preuves qu'ils vont citer. Ahsan. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. C'est quoi la preuve qu'Allah ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah dit qu'il ne leur avait ordonné que de l'adorer à lui, voyant que c'est un fait exclusif. Ce n'est que ça qu'il a ordonné. Autre chose qu'il n'a pas ordonné. Tout ce qu'il a ordonné aux hommes, c'est de l'adorer en lui voyant que c'est un fait exclusif. C'est
C'est ce qu'il leur a ordonné. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il les a créés? وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون وخلق وبذلك أمر جنانا وخلقهم لها وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون جنك الجن إلى ذنك فوتين ما دو هو هاي كمان لذلك لكي هاي لكي هاي لكي تقود أغيق لي لدليل انتهى انتهى طيب ولعلنا نقف عند هذا الحد والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.